Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
C'est reparti pour le carnet de région, l'actualité en région Occitanie avec au sommaire cette semaine, riche actualité proposée par de nombreuses radios associatives. La ministre Jacqueline Gourault, déléguée auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, était présente à l'ODEF dernièrement pour l'inauguration de la Maison de l'État. Les précisions de Radio l'ODEF d'ici quelques instants. Dans le Gard, les sapeurs-pompiers dénoncent un manque de moyens. Nous partirons avec Jean-Baptiste Labeur pour ce sujet. L'Héroletais et photographe sous-marin Laurent Balesta est primé en Angleterre et non, vous ne rêvez pas, Alice Berthias la joint pour RCF Maglonero. Et puis de retour à l'ODEV en cette fin de magazine, puisqu'il ne vous reste plus que quelques heures pour admirer l'exposition Impression Forte, l'estampe en 100 chefs-d'œuvre, Rembrandt, Dürer ou encore Goya, qui se termine ce dimanche 5 novembre. Voici le riche menu de ce tout nouveau carnet de région. Et donc bienvenue à toutes et à tous. À l'occasion de la 10e édition de la fête de l'eau en Lozère, la Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection en milieu aquatique et le réseau de l'éducation à l'environnement de Lozère, en partenariat avec le rectorat de l'Académie de Montpellier et l'inspection académique de la Lozère, ont proposé durant 3 semaines d'animation à près de 700 lycéens de seconde de 9 établissements lozériens pour 48 FM. Corentin Bousquet s'est rendu à une animation au bord du Lot pour les étudiants du lycée Chaptal de Mende.
Les élèves du lycée Chaptal étaient ce vendredi au bord du Lot pour une démarche d'investigation locale et concrète sur le terrain, avec des ateliers pratiques de mesure de paramètres physico-chimiques et biologiques de l'eau et d'observation.
Non, ça c'est aussi ce qu'on va calculer dans le but de calculer quoi ? Le débit de l'eau qui se calcule en mètres cubes par seconde. Ok. Donc effectivement, pour commencer, tu nous as dit on va faire d'abord la
largeur moyenne.
Ensuite,
se rendre compte des impacts sur le milieu au niveau des pollutions, des différentes pollutions qu'il peut y avoir, qu'elles soient justement chimiques, physiques, organiques.
Canel Labom, animatrice au réseau éducation environnement de la Lozère.
Observation pour comprendre le rôle des écosystèmes. Alors, par exemple, ici, on parle de la ripisylve, des arbres de bord de rivière, leur rôle pour maintenir les berges, leur rôle écologique pour absorber la matière organique quand il y en a trop, etc. Donc sur chaque chose, on va un peu s'arrêter pour comprendre leur rôle écologique, comprendre le fonctionnement de la circulation de l'eau, aussi par rapport aux problématiques d'un bassin versant, une inondation. Bah oui, mais si on construit une digue à tel endroit, ça a des répercussions plus bas, ça favorise une inondation. Donc ils vont comprendre le phénomène d'accélération du cours d'eau selon les aménagements humains en fait.
Une sortie dans le cadre d'une journée de sensibilisation complète. Grégory Richard, responsable animation à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique.
La journée démarre le matin à 8h en classe avec une représentation de l'eau. Ensuite, ils vont visionner un film sur un bassin versant par rapport à sa gestion, tout ça, quoi. Donc la globalité d'un bassin versant, d'un cours d'eau. À 9h30, ils partent sur le terrain pour justement réaliser des investigations de terrain, donc notamment des mesures physiques, chimiques, biologiques, pour connaître l'état du milieu. Retour en classe à 14h pour une modélisation justement du bassin versant. Et ça se termine par un jeu de rôle donc, où là les élèves vont être acteurs justement de ce bassin versant et essayer de répondre aux problématiques et essayer d'arriver à gérer ce bassin versant.
Donc on le trempe dans l'eau, on regarde la couleur que ça prend et on fait avec la bacque de couleur ici, on le replace. Attention, il y a deux côtés à la boîte. On le trempe une seconde dans l'eau et il met 60 secondes, donc une minute, à réagir.
Plus qu'une sensibilisation, c'est une véritable approche scientifique. Olivier, animateur nature et accompagnateur en montagne.
Alors c'est de la sensibilisation, mais on est aussi dans le cadre d'un programme scolaire, hein. On est avec des élèves de seconde, donc on apporte une démarche scientifique, on a vraiment une approche construite de manière scientifique, où là ils sont en train de mesurer des profondeurs, des vitesses, des largeurs, du pH. Ensuite on va faire ce qu'on appelle un indice biologique, on va faire des prélèvements d'êtres vivants, et de là on va faire notre analyse qui conclut encore une fois la qualité ou pas de l'eau.
Marine Solano et Gaëtan, élèves de seconde.
On nous a expliqué les différents types d'eau, de rivières, de végétation.
Il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et on a appris que plus l'eau est courante, plus il y a d'oxygène. Et moins elle est courante, moins il y a d'oxygène.
On a vu qu'il y avait plusieurs types de cailloux, comme du granit, et elle nous a expliqué ce qu'était le granit, par exemple. On a fait le test du pH, on a fait la température et le nitrate.
Et les données relevées sur le terrain ont été enregistrées afin d'enrichir une base de données numérique pour permettre une réexploitation pédagogique et une comparaison des relevés de terrain d'année en année.
Et après, c'est pareil, on a un abac de couleurs sur la boîte qui nous permet de connaître la teneur en nitrate de la rivière.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et plus largement en Occitanie, vendredi dernier, Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, était présente à l'ODEV pour l'inauguration de la maison de l'État en lieu et place de la sous-préfecture. Alors, celle-ci est-elle supprimée ou transformée ? Réponse de la ministre au micro de Damien Saintès de Radio l'ODEV.
La sous-préfecture est renforcée parce qu'il y avait des services qui étaient éclatés, notamment à Clermont-Lérault. Et donc, on a rassemblé sur un seul site les services de la préfecture, aussi bien les services des territoires que l'inspection académique, que les services administratifs plus classiques qu'on trouve dans une préfecture. Et naturellement, ça renforce la sous-préfecture de l'ODEV. Alors, je sais très bien qu'il y avait des angoisses, des craintes que ces maisons de l'État, en fait, soient une manière de cacher une disparition des sous-préfectures, ça n'est pas le cas. La sous-préfète est toujours là, dans son bureau. La seule chose qui a changé, c'est qu'elle n'habite plus la maison puisque ses appartements privés ont été transformés en bureau. Mais au contraire, je dis, c'est renforcer la sous-préfecture de l'ODEV, ce qui vient de se passer ici.
L'objectif avec ces mutualisations ?
Faciliter l'interministérialité, c'est-à-dire que les ministères travaillent les uns avec les autres plus facilement sur le territoire.
La ministre Jacqueline Gourault a profité de sa visite pour faire une annonce. L'État redistribuera à présent une part de la TVA aux régions. Elle est également à rassurer les élus sur l'avenir des départements, comme elle nous l'explique.
Alors, dans le budget pour l'année prochaine, pour 2018, qui est en discussion à l'Assemblée nationale, les régions, vu leurs nouvelles compétences qui leur ont été transférées par la loi NOTRe, notamment dans le domaine économique et des transports, avaient besoin de nouvelles ressources et l'État va donner une part d'un impôt national, c'est-à-dire une part de TVA, une quote-part de TVA qui sera dirigée vers chaque région. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher ce qu'on appelait autrefois la DGF, la dotation globale de fonctionnement, ce sera une part d'un impôt national. Je confirme qu'il n'est pas question de supprimer les départements. C'est vrai qu'il y a eu, sous l'ancien gouvernement, à un moment, on s'est posé la question, enfin, il s'est posé la question de maintenir ou non les départements. Je crois pouvoir dire d'abord que quand on regarde les dimensions des régions maintenant, qui ont été très agrandies, je dirais par voie de conséquence, les départements, comment dire, se trouvent confortés, puisque la proximité, c'est le département qui va l'incarner encore plus aujourd'hui devant l'agrandissement des régions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les régions jouent un rôle d'accompagnement social, de solidarité des territoires qui sont absolument importants. Et donc, il n'est pas question de supprimer les territoires.
Et durant toujours sa visite à l'ODEV, la ministre Jacqueline Gourault en a profité pour visiter et s'entretenir avec les partenaires de la maison de services au public qui héberge aujourd'hui 23 structures. Un autre effort de mutualisation, cette fois-ci à l'échelle intercommunale. Une caserne à ciel ouvert en pleine rue. Cela se passe avenue Fauchère à Nîmes, devant la préfecture. Les sapeurs-pompiers professionnels du Gard, Jean-Baptiste Labeur, sont mobilisés depuis plus d'une semaine pour demander plus de moyens.
Oui, depuis le 23 octobre, des dizaines de pompiers en grève se relaient depuis plus d'une semaine. Donc maintenant, les hommes du service départemental d'incendie de secours, le SDIS, réclament davantage de personnel et de nouveaux véhicules. Pour l'instant, le conseil départemental refuse d'allouer exceptionnellement 320 000 euros qui s'ajouteraient au budget de fonctionnement du SDIS du Gard, évalué à 68 millions d'euros. Alors symboliquement, une caserne a même été mise en vente sur un célèbre site de petites annonces. Nicolas Nadal est secrétaire général du syndicat Sud et l'un des porte-parole de l'intersyndicale de ce mouvement.
Depuis quelques jours, symboliquement, on a mis en vente la caserne de Nîmes sur le site bien connu pour montrer à nos élus que ben, puisqu'ils apparemment ils n'avaient pas trouvé de financement pour pouvoir renouveler nos camions et puis avoir des effectifs cohérents dans notre département, Voilà, donc on allait retrouver des fonds en vendant cette caserne. Donc aujourd'hui, on a un département qui a un budget excédentaire et on comprend pas pourquoi tant de mal pour nous en affecter de manière à nous retrouver un effectif cohérent. Il faut savoir que depuis 2003, nos interventions ont augmenté de 20% et qu'aujourd'hui on est toujours au même effectif, à savoir 645 pompiers professionnels. Donc on demande aujourd'hui à ce que le département puisse nous permettre de retrouver un effectif qui est à la hauteur du nombre d'interventions qui ont augmenté. Et ensuite, il y a une création d'une nouvelle caserne et on ne comprend pas comment on va pouvoir créer une caserne à effectif constant.
Alors l'un des points noirs, Jean-Baptiste, ce sont les véhicules. Certains ont presque atteint le statut de véhicule de collection, selon les pompiers.
Oui, cela pourrait être anecdotique, mais pour Nicolas Nadal, cette situation est susceptible de mettre en danger inutilement la vie des personnels.
On a des camions qui ont plus de 20 ans, donc aujourd'hui on est en danger en utilisant ces camions. Il faut savoir que quand on est parti en Corse faire un renfort, on a été obligé de choisir nos camions donc pour assurer la sécurité de nos collègues. Donc voilà, on demande à ce que la direction et le département prennent des mesures fortes pour pouvoir avoir un parc véhicule qui soit à la hauteur de nos interventions.
Vous chiffrez à combien le montant de ce qui pourrait constituer le renfort et le renouvellement du matériel ?
Eh bien, écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la direction, c'est des chiffres de la direction et ils ont été présentés à nos administrateurs. Il faut renouveler 57 camions feux de forêt, il y en a environ pour 12 millions d'euros. Et donc ça, nous, évidemment, on comprend que c'est une somme lourde et pourquoi pas faire un plan sur plusieurs années de manière à pouvoir renouveler notre parc véhicule vétuste.
Et on peut noter que ce ras-le-bol s'inscrit dans un contexte particulier cette année pour les pompiers du Gard.
Oui, dans ce département, comme dans d'autres départements du Sud, on assiste à une saturation chez les soldats du feu confrontés à une saison particulièrement compliquée sur le front des feux de forêt avec la sécheresse et aussi pour le Gard à des agressions dans certains quartiers. Nicolas Nadal.
On a donc déjà cette surcharge de travail due à des conditions climatiques exceptionnelles. Et on a aussi depuis quelques jours des problèmes dans les zones urbaines sensibles où on est caillassé, agressé avec des cocktails Molotov. Donc on renforce nos départs avec du personnel supplémentaire. Alors on ne sait pas bien pourquoi, hein, parce que je ne vois pas comment ils pourraient assurer leur propre sécurité. On n'est pas formé pour ça. Mais par contre, du coup, ça nous donne une sursollicitation et c'est vrai que les personnels, on est en train de tirer sur la corde et voilà, et là, elle casse.
Et on peut souligner aussi, Jean-Baptiste, que ce problème ne semble pas se limiter au département du Gard. Ce manque de moyens est également pointé du doigt dans d'autres départements en France.
Oui, régulièrement, les syndicats de sapeurs-pompiers professionnels s'alarment et dimanche, ce sont des pompiers du Rhône qui sont venus soutenir leurs collègues à Nîmes. La question des moyens, c'était l'un des sujets également abordés lors du dernier congrès des sapeurs-pompiers en Corse en septembre dernier. Depuis 1996, ce sont les conseils départementaux qui ont la charge des services d'incendie et de secours. Et pour Nicolas Nadal, les baisses des dotations de l'État aux collectivités ont eu un impact négatif.
En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas un problème départemental, hein, c'est un problème national. Tous les 10 sont en difficulté. Les collectivités territoriales ont du mal à trouver des moyens financiers pour permettre des recrutements, des renouvellements de véhicules, des budgets de fonctionnement, des budgets d'investissement. Et aujourd'hui, les 10 sont en difficulté, les pompiers sont en colère. Les collègues du Rhône nous ont rejoints d'ailleurs dimanche pour venir manifester à nos côtés. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les problématiques sont les mêmes dans tous les 10. On est en train de voir les limites des collectivités territoriales pour l'engagement vis-à-vis des 10 et l'État effectivement doit augmenter sa participation pour financer les 10 parce que là aujourd'hui je ne vois pas la solution et on le voit, hein, on est en train dans tous les 10 d'avoir les mêmes problématiques et on ne sait pas vers qui se tourner.
Et pour Nicolas Nadal, ce manque de moyens peut avoir à long terme des effets sur la qualité des secours, les 10 ayant déjà du mal à trouver des pompiers bénévoles.
Ça aura forcément un impact parce que aujourd'hui les pompiers professionnels, eux, c'est leur temps de travail et les pompiers volontaires, c'est de la sollicitation en dehors de leur travail. Aujourd'hui, si on baisse le nombre de professionnels, les pompiers volontaires, eux, pendant qu'ils sont dans leurs travail respectifs, ils ne peuvent pas assurer les mêmes interventions. Donc aujourd'hui, est-ce que si on ne garantit pas un seuil de pompiers professionnels dans tous les départements, on aura forcément des difficultés à assurer le côté opérationnel.
Contacté hier par la rédaction, le Conseil général du Gard n'a pas à cette heure encore répondu à nos sollicitations, mais il propose néanmoins un dialogue aux sapeurs-pompiers professionnels.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.
La suite de ce carnet de région dans quelques instants, direction l'Odève pour plus que quelques heures admirer l'exposition au musée Fleury. L'estampe en 100 chefs-d'œuvre de Rembrandt, de Dürer ou encore également de Goya. Auparavant, voici le photographe sous-marin Laurent Balesta qui a été primé en Angleterre. En effet, l'Hérolté a été sacré meilleur photographe nature de l'année, catégorie environnement, par le musée d'histoire naturelle de Londres. Laurent Balesta l'a gagné grâce à sa photo, la face cachée de l'iceberg, prise lors de son expédition Antarctica. Alice Bertas l'a joint pour RCF Maglonero.
C'est le plus vieux concours de photographie animalière du monde. Cette année, c'était la 53e édition du concours. Voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que maintenant, faire des photos est mon métier, quoi. Et j'avais jamais osé. J'avais jamais osé participer à ce prestigieux concours. Et puis, avec cette expédition en Antarctique et les images qu'on a ramenées l'année dernière, je me suis dit que si j'essayais pas cette année, alors j'essaierais jamais, quoi. Voilà. Et puis, il y avait peut-être aussi une volonté d'être récompensé, parce que peut-être contrairement à d'autres expéditions, ces plongées étaient tellement douloureuses, tellement difficiles, dures à vivre là dans ces eaux en Antarctique, que peut-être inconsciemment il y avait besoin d'être récompensé plus que d'habitude.
Cette photo, elle est importante pour vous. Vous en êtes fier?
Oui, bien sûr. En plus, c'est pas de ces photos qui vous tombent dessus par hasard parce que vous êtes là au bon moment, au bon endroit. Il y avait un fantasme en allant en Antarctique, c'était ça, la face cachée de l'iceberg, au sens propre comme au sens figuré. Et donc on peut pas s'empêcher d'imaginer. Et si on arrivait pour une fois à photographier ce qui, dans la conscience collective, par définition, est caché, est invisible, la face cachée de l'iceberg. Et on a eu la chance, par contre, de tomber sur un endroit où toutes les conditions étaient réunies, c'est-à-dire un iceberg qui était quand même imposant, mais qui n'était pas non plus un iceberg de plusieurs kilomètres de long qui aurait été impossible à photographier sous l'eau. Et voilà. Et après, on a mis en place un protocole, hein, vraiment pour le photographier, parce que c'était tellement grand que ça ne rentrait pas en quelque sorte dans une seule image. C'est-à-dire que quand on se reculait sous l'eau suffisamment pour englober la vision complète de l'iceberg, à ce moment-là, on ne le voit plus parce qu'on est trop loin et que sous l'eau, il y a une distance à partir de laquelle on ne voit plus le sujet qui est devant soi. Alors, on a utilisé un système de photos panoramiques. On a tendu des cordes au fond, des lignes qui partaient du fond et qui allaient jusqu'à la surface, enfin jusqu'à la banquise. Et ça m'a fait une sorte de quadrillage de cordes géants devant l'iceberg. Et ensuite, au bout de 3 jours d'installation, j'ai parcouru ce quadrillage de haut en bas et j'ai fait des tonnes de photos, exactement 147 photographies.
C'est
et ensuite, se sont assemblées automatiquement sur l'ordinateur et nous ont révélé cette vision presque impossible. Alors, on était très fiers. Voilà, et puis, je dis bien « on était » parce que c'était quand même un travail d'équipe et que mes camarades sont présents sur la photo. Il fallait donner une référence de taille. Alors, mes camarades de plongée sont répartis un peu sur cet iceberg autour. Alors, c'est à peine des silhouettes minuscules, mais on les voit. Alors, c'est superbe d'avoir fait ce travail. Ça a été dur, on était contents du résultat.
Ça a pris 3 jours, c'est ça, pour la faire en tout, pour prendre toutes les photos?
Bah oui, entre le jour où on a repéré les lieux, le jour où on a installé tout ce réseau de cordelettes, et puis le jour où on a réalisé l'image, ouais, ça a pris trois journées. Il faut dire qu'en Antarctique, les conditions sont trop dures pour faire plus qu'une grosse plongée par jour. Et donc voilà, du coup, ça tout prend du temps là-bas. Mais ça valait la peine, vraiment.
L'Hérolté, Laurent Balesta, joint par téléphone par Alice Bertias, photographe sous-marin. Et notez que sa photo qui a été primée en Angleterre, la face cachée de l'iceberg, est visible sur sa page Facebook.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et pour terminer ce carnet de région, direction l'Odève à nouveau, avec plus que quelques heures jusqu'à dimanche précisément pour admirer l'exposition au musée de l'Odève. Impression forte, l'estampe en 100 chefs-d'œuvre, Rembrandt, Dürer, Goya ou encore également Degas. Et notez que pour le dernier dimanche, l'entrée sera à 1 euro pour tous. Alors, pourquoi l'idée d'une telle exposition? Eh bien, la réponse avec Yvonne Papin-Drastic, directrice du musée.
L'idée est venue tout simplement d'une rencontre avec le conservateur de cette merveilleuse collection, Florian Rodary, donc, que j'ai rencontré il y a quelques années à l'occasion de la rétrospective Bissière, et qui nous avait prêté un tableau, puisqu'il est à la fois, il est également le conservateur d'une autre collection, la collection Planck, qui est située à Aix-en-Provence, déposée au musée Granet. Et nous avions à l'époque, il m'avait vanté les mérites de cette collection, et je me suis donc rendue à Vevey en Suisse, où cette collection est déposée, au musée Jenisch, pour me rendre compte de moi-même de sa qualité. L'idée est née tout de suite de réaliser une exposition qui finalement résume cette collection, qui a une spécificité, c'est qu'elle a été constituée de deux fonds différents. L'un qui est la fondation même de cette collection, qui est une petite collection constituée par un pasteur qui s'appelait William Quendet, et qui, dans le souci d'illustrer le texte sacré, a collectionné toute l'œuvre gravée de Dürer et de Rembrandt notamment, mais également de Corot. Et puis il y a un atelier de gravure qui est né juste après 1968 à côté de Lausanne, l'atelier de Saint-Prex, qui est une sorte de laboratoire de création dans lequel des artistes contemporains viennent se confronter à cette technique extrêmement complexe et décident de donner systématiquement une de leurs œuvres à cette collection. Et c'est par cette connivence entre les deux qu'est née l'idée de créer une fondation en 1977 qui est aujourd'hui riche de 10 000 œuvres.
C'était la directrice du musée de l'ODEV, Yvonne Babin-Drastic, pour nous parler de l'exposition du musée de l'ODEV, Impression forte, l'estampe en 100 chefs-d'œuvre de Rembrandt, de Dürer, de Goya ou encore également de Degas, qui se termine ce dimanche 5 novembre. Notez que pour ce dernier rendez-vous, l'entrée sera fixée à 1 euro pour tous. Et juste après, le musée de l'ODEV fermera ensuite ses portes jusqu'en juillet 2018 et réouvrira complètement après 4 ans de travaux. C'est la fin de ce carnet de région, l'actualité en région Occitanie. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci également aux radios contributrices de ce magazine et merci aux radios également qui diffusent ce magazine. Prochain retour du carnet de région, c'est bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure.